Bonjour à toutes et à tous, Didier Delattre sur IDFM pour un nouveau rendez-vous conte. Des histoires, des récits, des petits points de culture étonnants, ignorés, oubliés, des engagements, des questions, des écritures et des réécritures qui nous viennent parfois de la nuit des temps et des hommes et que je vous raconte en suivant l'ordre alphabétique. Veuillez vous donner la peine d'entrer, monsieur. Un valet de pied, ma foi très courtois, a formulé cette invitation à notre attention. Tout en le suivant, nous avons traversé une suite magnifique de salons somptueux, chacun décoré dans une tonalité particulière. L'ensemble, tapis, meubles et fauteuils se rattachent pour chaque pièce à une couleur dominante, bleu soutenu, violine, beige ou havane. Des lumières très douces se dissimulent derrière des verreries d'un goût exquis. Ce visiteur émerveillé, un journaliste français, découvre-t-il en 1883 un palais des mille et une nuits ou le château de la Belle au bois dormant? Non, tout simplement, il visite le dernier né de la compagnie des wagons-lits dont la décoration est une pure merveille. Il y a des trains réels et pourtant mythiques. Et s'il est un train qui a marqué l'histoire, c'est bien l'Orient Express. L'Orient Express au bord duquel ce journaliste ébloui a la chance d'effectuer le trajet inaugural officiel. L'Orient Express, le symbole de toute une époque depuis longtemps disparue. C'est son histoire vraie et pourtant hors du commun que je vais vous raconter aujourd'hui. Les rendez-vous comptes des 27 octobre et 3 novembre, nous les avons consacrés, je vous le rappelle, au prix Annie Arnaud, organisé en 2003 par la ville de Saint-Leu-la-Forêt. Et rappelez-vous, tous les concurrents adultes devaient commencer leur nouvelle par cette phrase d'Annie Arnaud. Il y avait beaucoup de monde dans le train vers 6 heures du soir. Durant ces deux rendez-vous comptes, vous avez pu écouter quelques-uns de ces récits de fiction ferroviaire que vous pouvez retrouver en podcast sur le site d'IDFM. Mais aujourd'hui, on part pour un véritable voyage sur rail, un voyage dans le temps, à travers toute l'Europe jusqu'en Asie. Allez, en voiture, le voyage commence. Aujourd'hui, dans notre ordre alphabétique aléatoire et affectif, c'est O comme l'Orient Express. Le mythe commence à Paris, gare de l'Est, en 1883. Le 5 juin, à 19h30, a lieu de la gare de Strasbourg, actuelle gare de l'Est, à Paris, le premier départ de l'Express d'Orient, déjà appelé aussi l'Orient Express, à destination de Constantinople, en Turquie. La vogue est à l'orientalisme en France, notamment depuis la traduction des Mille et une nuits au XVIIe siècle, depuis le bourgeois gentilhomme de Molière avec son Monsieur Jourdain fait grand mamamouchi, depuis l'expédition d'Égypte de Bonaparte, les conquêtes coloniales, les harems des peintres Ingres et Delacroix, les voyages en Orient de Gérard de Nerval ou le Salambo de Gustave Flaubert. En fait, c'est l'Europe entière qui est attirée par l'Empire ottoman finissant. Selon certaines sources, les passagers de ce voyage inaugural étaient tous des hommes, à qui on avait recommandé de porter par précaution une arme à feu, rendez-vous compte. L'inauguration officielle a lieu 4 mois plus tard, le 4 octobre 1883. Journalistes français, étrangers, artistes et personnalités politiques se pressent sur les quais pour assister au départ, auxquels sont conviés 24 passagers, dont seulement 2 femmes. L'égalité n'est pas encore tout à fait d'actualité. Autre discrimination sociale, celle-là, le prix des places, 700 francs or, représente la moitié du salaire annuel d'un ouvrier qualifié. L'Express d'Orient fait l'aller-retour Paris-Constantinople de 3094 km en moins de 2 semaines. Parti le 4 octobre 1883 à 19h30, à l'arrêt pendant 5 jours, il est de retour le 16 octobre à 6h du matin. Le trajet de Paris à Constantinople n'a pris que 4 jours, à une vitesse moyenne de 50 km/h, là où la liaison maritime Marseille-Constantinople en nécessitait une quinzaine. Le trajet n'est pas encore direct, le train traverse l'Europe de Paris à Bucarest, en Roumanie, via Strasbourg, Munich, Vienne, en Autriche et Budapest, en Hongrie. Et n'ayant pas l'autorisation de traverser le Danube, les passagers doivent prendre un bac entre la Roumanie et la Bulgarie pour franchir le fleuve et la frontière. Un autre train les mène ensuite à destination d'un port bulgare sur la mer Noire où ils embarquent à bord d'un navire, le vapeur Espero, qui en une quinzaine d'heures jusqu'à Constantinople par le Bosphore leur fait atteindre la destination. Une véritable expédition comme vous pouvez le constater. À partir de 1889, la ligne étant achevée jusqu'à Istanbul, le train devient direct. Il circule deux fois par semaine entre Paris et Constantinople. Alors, Constantinople, Byzance, Istanbul, hein, c'est bien de la même ville dont il s'agit. Au luxe du train s'ajoutent des animations, concerts de musique tzigane, visite d'un château en Roumanie, parce que chacune des villes desservies par ce train est particulièrement appréciée par la luxueuse clientèle de l'Orient Express. Munich avec sa cathédrale, Budapest avec ses nombreux bains et son château royal, Vienne et son emblématique l'impératrice Sissi. Il faut dire que le voyage constitue une véritable révolution. Tout d'abord, le train est composé de voitures lits, de voitures restaurants, du jamais vu. Et puis, il ne faut pas moins de 30 locomotives différentes pour tenir la distance jusqu'au bout de ce voyage inaugural. La vitesse est impressionnante pour l'époque, la presse s'enthousiasme. Le 20 octobre, l'envoyé spécial du Figaro écrit « En 76 heures au lieu de 111 comme autrefois, nous avons accompli le trajet de Constantinople à Paris et cela sans la plus légère fatigue dans des conditions de confort absolu. » Ce succès est l'œuvre d'un visionnaire. Lors d'un séjour aux États-Unis en 1868, le jeune ingénieur belge George Nagelmakers voyage à bord des trains Pullman et expérimente leur fameux sleeping car, les wagons-lits. Certes, les trains américains sont en avance technologiquement sur ceux du vieux continent, mais ils n'en demeurent pas moins très inconfortables. Alors notre jeune ingénieur belge revient en Europe avec une idée, créer des trains luxueux pour une clientèle aisée. Il dessine lui-même le train de ses rêves. Et avec l'Orient Express, il réussit le pari d'allier longue distance, confort et raffinement. Il invente un nouveau système de suspension et de bogies, rendant le train si confortable qu'il peut rouler de jour comme de nuit. En 1883, il crée sa société, la Compagnie internationale des wagons-lits et des grands express européens, et adopte le célèbre monogramme aux deux lions héraldiques apposés sur les portes des voitures voyageurs. Le cinéma, la littérature, les affiches, la photographie diffusent largement l'image de ce logo, assurant la renommée de ces trains légendaires qui parcourent l'Europe jusqu'en Asie et en Afrique. Son ambition est de créer un réseau international de trains de luxe, évitant les changements aux frontières. Les passagers sont d'ailleurs libérés des contraintes administratives, la compagnie des wagons-lits s'occupant de présenter les passeports à chaque passage de frontière. Nagelmakers est un précurseur visionnaire des voyages modernes. Il fait construire des palaces dans les pays où passe le train pour que ses clients puissent trouver la même qualité de service sur la route comme à l'arrêt. À lui seul, il incarne l'art de vivre idéal. Enfin idéal, pour ceux qui en ont les moyens, bien sûr. Dès 1894, la compagnie des wagons-lits ouvre un hôtel de luxe à Constantinople, le Pera Palace, pour les passagers de l'Orient Express. Un coup de génie. En fait, prendre l'Orient Express, c'est comme entrer dans une pièce de théâtre. Baudelaire aurait pu écrire « Là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté », mais Baudelaire n'a jamais voyagé à bord de l'Orient Express. Un train comporte une douzaine de voitures, dont le wagon-restaurant de 40 places et les wagons-lits. Il transporte entre 150 et 200 personnes. Il est surnommé le roi des trains, le train des rois. C'est un très joli chiasme d'ailleurs. L'Orient Express conjugue innovation et élégance. Ses cabines sont équipées avec ce qui se fait de plus moderne. Chauffage central, eau chaude, éclairage au gaz. Et côté luxe, l'intérieur est tapissé, les lits impeccablement dressés. Des peignoirs marqués du sceau de la compagnie attendent les voyageurs. On utilise les meilleurs matériaux, draps en soie, sanitaires en marbre, coupes en cristal et couverts en argent. 20 cabines se transforment en salons durant la journée. Aux alentours de 1920, la Compagnie internationale des wagons-lits fait appel au maître verrier René Lalique et au décorateur ensemblier René Prou pour l'aménagement de certaines voitures. Panneaux de verre, marqueterie, de bois précieux, l'Orient Express devient ainsi un terrain d'expression international de l'art déco. En 1926, afin d'assurer pour les trains de jour le même confort que les wagons-lits de nuit, est imaginé le wagon-salon Pullman, sorte d'appartement de luxe roulant où les repas sont servis à la place même du voyageur, lui évitant ainsi d'avoir à se déplacer au wagon-restaurant. Les petites lampes roses sur les tables marquent d'un style année folle le wagon célèbre Pullman. En 1922, toutes les voitures en teck sont remplacées par des voitures métalliques plus confortables. Ces dernières sont peintes d'une couleur bleu nuit avec des liserés de couleur or. Ces couleurs auront été choisies par le directeur, M. Noblemaire, en souvenir de sa tenue de chasseur alpin, rendez-vous compte. Orient Express, c'est aussi une marque de haute cuisine, car très rapidement, sa cuisine justement fait l'unanimité chez les amateurs de bonne chère. Malgré sa surface réduite, à peine 2 mètres sur 2, la cuisine du train est un lieu d'où sortent des mets dignes des meilleurs restaurants et qui varient selon les pays traversés. La légende raconte que certaines personnes montaient dans le train 2 ou 3 heures dans le seul but de se régaler au restaurant. Tiens, à ce propos, nous connaissons les menus servis à bord le jour de la signature de l'armistice le 11 novembre 1918, un jour mémorable pour l'histoire de l'Orient Express, nous y reviendrons. Alors pour le déjeuner, ces messieurs ont été régalés d'une omelette paysanne, fricandeau florentine, chou-fleur à la polonaise, viande froide à la gelée, salade et dessert. Pour le dîner, ils ont eu droit au consommé au diablotin, langouste en Bellevue, contrefilet à la Jussieu, endive demi-glace et d'un dessert encore. Alors bien entendu, l'histoire de l'Orient Express est jalonnée de faits divers bien réels et pourtant stupéfiants. Le voyage n'est en effet pas exempt d'aventures en tout genre. En 1891, des bandits prennent en otage 5 voyageurs et dérobent 120 000 livres sterling. L'année suivante, le choléra s'invite dans les wagons et l'Orient Express est mis en quarantaine. Le 30 juin 1919, l'Orient Express arrivant de Bucarest est bloqué plusieurs jours à la frontière yougoslave, faute de combustible. Excédés par l'attente, les voyageurs finissent par se cotiser pour acheter un wagon de bois et repartir. Durant l'été 1929, l'Orient Express se trouve bloqué par la neige et pendant 5 jours à 130 km d'Istanbul. La température dans les wagons atteint les moins 10 degrés, poussant un maharaja à acheter à prix d'or les manteaux des autres voyageurs pour couvrir ses 7 femmes. Affamés, certains passagers s'aventurent dehors pour échanger des œufs contre leurs bijoux au village le plus proche et finissent par chasser eux-mêmes le loup, voire par en manger. Alors cette aventure inspirera à Agatha Christie la toile de fond de son roman « Le crime de l'Orient Express » dont nous reparlerons bien entendu. Plus tard survient l'une des histoires les plus dramatiques et rocambolesques liées au train. Lorsque des terroristes font sauter au passage de l'Orient Express un viaduc en Hongrie un soir de septembre 1931. La locomotive et plusieurs wagons tombent dans le vide, faisant une vingtaine de morts et une centaine de blessés. L'attaque restera dans les annales car, figurez-vous que la chanteuse Joséphine Baker se trouve à bord du véhicule visé. Par le plus grand des hasards, la plus grande des chances, elle fait partie des survivants. Son wagon-lit est le seul qui n'a pas déraillé. Indemne, elle se met alors à chanter pour réconforter les survivants. Rendez-vous compte. Mais l'Orient Express va également jouer un rôle historique de premier plan. Dès le début de la Première Guerre mondiale, le service des wagons-lits à travers l'Europe en guerre est évidemment suspendu. Et l'Allemagne s'approprie en 1916 un lot de voitures de la compagnie des wagons-lits pour lancer sa propre version de l'Orient Express, qui s'appellera le Balkanzug. Quant à la compagnie des wagons-lits, elle met à la disposition des généraux alliés plusieurs voitures de luxe pour leurs déplacements. Le wagon-restaurant 2119D de l'Orient Express, construit en 1913, rentre d'ailleurs dans l'histoire le 11 novembre 1918 vers 5h du matin. Transformé en bureau-salon pour le général Foch, commandant en chef des armées alliées, il a été choisi pour la signature de l'armistice. L'état-major souhaite un lieu isolé des regards, mais capable d'accueillir 2 trains, un pour les alliés et l'autre pour les Allemands. Le train du maréchal Foch est positionné dans une clairière en forêt de Compiègne proche de la gare de Rotonde, ce qui permet de ravitailler en eau les machines en permanence maintenues en chauffe. Assez éloigné aussi pour permettre des discussions loin des journalistes tenus à l'écart. L'armistice met provisoirement fin au combat de la guerre mondiale 1914-1918, reconnaissant de fait la victoire des Alliés et la défaite de l'Allemagne. La compagnie des wagons-lits fait don de ce wagon-restaurant à l'État français en 1921. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, vous pouvez admirer un wagon de la même série, le Wingo 2439D, aménagé à l'identique dans la clairière de Rotonde ? Et depuis les fenêtres latérales, des étiquettes indiquent la place des généraux le 11 novembre 1918. Et l'arrière du wagon est décoré des drapeaux des pays alliés ayant participé à la guerre mondiale. Mais le destin exceptionnel de ce wagon ne s'arrête pas là. Un peu plus de 20 ans plus tard, l'armistice du 22 juin 1940, demandé cette fois par la France à l'Allemagne, consacrant la défaite de notre pays au début de la Deuxième Guerre mondiale, cet armistice est signé sur la volonté expresse d'Hitler dans ce même wagon de 1419D, placé exactement au même endroit qu'en 1918, revanche de l'Allemagne humiliée en 1918, justement. Emmené à Berlin, le wagon sera détruit par accident sur une voie de garage lors de l'avancée des troupes alliées. Incroyable destin pour un simple wagon restaurant. Rendez-vous compte. Vous êtes bien sur IDFM Radio et sur ce titre de Jean-Michel Jarre, L'Orient Express, nous allons voir que le mythe de ce fameux train se construit également par les personnalités qui ont voyagé à bord. Et elles sont nombreuses. L'écrivain russe Léon Tolstoï, l'actrice américaine Marlène Dietrich qui retrouve son amant Jean Gabin, le créateur des ballets russes Serge Diaghilev, Albert Einstein, Josephine Baker, Coco Chanel, Jean Cocteau, Freud, l'inventeur de la psychanalyse, ou encore l'écrivain américain Ernest Hemingway. Un homme d'affaires arménien échappe au génocide de son peuple perpétré par les Turcs en 1915 en prenant clandestinement le train Istanbul. On retrouve aussi à bord des aventuriers comme Laurence d'Arabie, des espions comme la célèbre Matari qui sera fusillée pour espionnage pendant la Première Guerre mondiale. Mais aussi des militaires anglais en partance pour l'Inde. Et même un sultan qui installe à bord ses 8 femmes et transforme l'Orient Express en harem roulant. Alors quant au roi Ferdinand Ier de Bulgarie, il exigeait à chaque passage de conduire le train lui-même à toute vitesse à travers son royaume sans que personne n'ose s'y opposer. À Paris, une célèbre maison accueillant des messieurs, voilà un bel euphémisme, propose à ses clients fortunés une chambre décorée comme un compartiment de l'Orient Express, avec en option des bruits de gare et l'intervention d'un contrôleur pouvant prendre part aux différents transports. Rendez-vous compte. Et tout cela s'inspirant d'un roman léger de Guillaume Apollinaire dont un passage se déroule à bord du Paris-Constantinople. Mythe de l'Orient Express se construit aussi à travers la littérature et le cinéma. Dès 1883, l'écrivain Edmond Abou, qui a participé au voyage inaugural du train, publie « Deux Pontoises à Istanbul ». Oui, j'ai bien dit « Deux Pontoises à Istanbul ». En 1897, dans le célébrissime « Dracula » de Bram Stoker, le professeur Van Helsing prend le train de luxe pour se rendre à la rencontre du non moins célèbre vampire. En 1924, Maurice de Broca publie « La Madone des Sleepings » qui raconte les péripéties ferroviaires, amoureuses et politiques d'une jeune veuve désargentée. En 1993, Frédéric Dard publie « La Matrone des Sleepings » dans la série Sant'Antonio. Je vous en lis un petit extrait, ça vaut quand même son pesant d'or, si on peut dire. « T'as déjà pris l'Orient Express, toi ? Jamais ? Alors, t'as tout raté. Tu sais qu'il s'en passe des choses dans ce train de rêve, des choses que t'en reviendras pas. » Je connais des tas de mecs qui n'en sont pas revenus d'ailleurs. J'ai essayé de compter les Maccabées jalonnant sa route, mais comme j'avais pas de calculette, j'ai renoncé. Mais lorsque tu auras terminé la lecture de cette épopée ferroviaire, tu pourras t'y coller si ça t'amuse. Et si on te filait 10 balles par tête de pipe, tu aurais de quoi prendre l'Orient Express à ton tour. Auquel cas, tu devrais faire poinçonner ton bifton plutôt que ta tronche. Voilà, ça c'est du style. On a aussi Paul Morand, Valérie Larbeau, Joseph Kessel, qui mettent en scène leurs expériences ou leurs intrigues dans l'Orient Express. Et bien entendu, en 1957, l'agent secret britannique James Bond fait un voyage particulièrement mouvementé à bord de l'Orient Express dans « Bon baiser de Russie » de Ian Fleming. Mais celle qui est définitivement associée au roi des trains, c'est la reine du crime, j'ai nommé Agatha Christie. Est-ce que vous savez que la romancière britannique a rencontré son deuxième mari dans l'Orient Express et ses voyages à bord lui inspirent trois romans, dont le célèbre, bien entendu, Le Crime de l'Orient Express, publié en 1934. En fond sonore, nous entendons actuellement le générique de la série britannique Hercule Poirot, qui est interprété par David Suchet et sa célèbre moustache. Le roman policier d'Agatha Christie, l'un de ses plus connus, s'inspire de l'histoire survenue en 1929. Vous savez, je vous l'ai raconté, l'Orient Express coincé dans la neige, les voyageurs qui chassent les loups et qui échangent leurs bijoux contre des œufs. Par contre, le crime sort tout droit de l'imagination de l'auteur.
C'est quand même quelque chose, cet enchevêtrement d'inconnus, enfermés ensemble pendant des jours, qui n'ont rien en commun sauf le besoin d'aller d'un endroit à un autre, et qui ne se reverront jamais. Je sens quelque chose de malfaisant dans ce train. Un passager est mort.
Alors ils ont fini par l'avoir.
Vous pensez qu'il a été tué ?
Non, mais il était en excellente santé et il avait des ennemis.
En effet, il a été assassiné.
Seigneur, un meurtre ici. Paix à son âme.
Quelqu'un est venu fouiller dans ma cabine en plein milieu de la nuit et personne n'a voulu me croire.
S'il y a eu un meurtre.
Mais que se passe-t-il ?
Alors il y a un meurtrier. Le meurtrier est parmi nous. Et chacun de vous est suspect.
Et vous, qui êtes-vous ?
Je m'appelle Hercule Poirot, et je suis sans doute le plus grand détective du monde.
Hercule Poirot se trouve à bord de l'Orient Express bloqué par la neige. Et on découvre, bien entendu, dans l'une des voitures, le corps d'un Américain sauvagement assassiné à coups de couteau. Le meurtrier se cache forcément parmi les voyageurs. Mais qui, la princesse russe, de l'américaine fantasse, de ce couple de Hongrois distingués, de ce colonel de retour des Indes, ou même du propre secrétaire de la victime, a bien pu commettre un crime pareil ? L'enquête commence, elle sera l'une des plus difficiles et des plus délicates pour notre célèbre détective. Le roman se vend à des millions d'exemplaires et ses adaptations cinématographiques sont de francs succès. Figurez-vous aussi que la BD et le jeu vidéo s'emparent du mythe du train et du crime de l'Orient Express. Il y a une collection d'albums érotiques qui s'appelle L'Orient S'Express. On a aussi des jeux de simulation ferroviaire. Par exemple, Microsoft Train Simulator en 2001 et bien d'autres. Et Jean-Michel Jarre compose le titre L'Orient Express en 1982. Fin du voyage. La Seconde Guerre mondiale en 1939 marque un nouvel arrêt pour l'Orient Express, comme entre 1914 et 1918. La société allemande Mitropa lance sa version du train de luxe à l'attention des dignitaires nazis, en s'appropriant les wagons de la Compagnie internationale des wagons-lits. Mais l'entreprise n'est pas un succès à cause des résistants qui sabotent régulièrement les lignes de chemin de fer. À la fin de la guerre, de nombreuses gares, voies et ponts sont inutilisables à cause des bombardements et beaucoup de voitures ont été détruites. Au total, 189 wagons ont été perdus et plus de 300 ne sont plus en état de rouler. De plus, avec la guerre froide, les démocraties populaires, entre guillemets, d'Europe de l'Est acceptent mal ce cordon occidental qui traverse les frontières du rideau de fer. Les contrôles aux frontières s'intensifient, causant un fort ralentissement de la vitesse moyenne du train. Ce dernier est, comme lors de sa grande époque, pris encore par les diplomates, les espions, les trafiquants en tout genre, même des réfugiés politiques qui s'y cachent pour échapper au pays sous l'influence de la Russie. Mais les interminables arrêts douaniers dans les pays communistes traversés, la faiblesse de sa vitesse commerciale, à peine 55 km/h vers la fin, en raison du mauvais état des réseaux ferrés, concurrence des transports aériens, tout cela entraîne le lent déclin de l'Orient Express. Le dernier aller-retour Paris-Istanbul se fait le 20 mai 1977, 94 ans après son inauguration. Bon, aujourd'hui, il reste un train, propriété de la SNCF, composé de 7 voitures, dont certaines classées monuments historiques. Entièrement restaurées, ces ambassadrices itinérantes de l'art déco français circulent à titre exceptionnel pour des événements et des voyages privés. Une partie de ces voitures d'époque ont été parquées en 2014 le long de l'Institut du Monde Arabe, à Paris, dans le cadre de l'exposition « Il était une fois l'Orient Express ». On peut retrouver de sublimes photos de cette expo dans l'édition spéciale du magazine Beaux-Arts, publiée en collaboration avec la SNCF et l'Institut du Monde Arabe, et intitulée tout simplement « Il était une fois l'Orient Express ». Rien de mieux pour souligner la dimension de ce conte merveilleux de cette aventure ferroviaire. Aujourd'hui, l'Orient Express est devenu le Venise, Simplon, Orient Express. Même concept, décoration luxueuse, fidèle à son grand frère, itinéraire à travers l'Europe, Paris, Budapest, Prague, Vienne. Bon, il faut tout de même compter au moins 1600 euros par personne pour faire le trajet. Ouais, la nostalgie des grands trains de luxe a un coût.
J'ai passé ma vie à danser sur un fil. Va de Paris aux frontières de l'exil. J'ai gravé mon cœur sur une plage de vinyle. Je n'ai jamais eu peur des rois, des imbéciles. J'ai brûlé ma vie et j'ai cassé le fil. Va de Vénus aux lumières de la ville. J'ai laissé mon cœur sur une île au soleil. Je joue au flipper toutes mes heures de sommeil. J'ai des souvenirs longs comme l'Orient Express. J'ai des souvenirs.
Voilà, terminus, tout le monde descend. Ainsi se termine notre rendez-vous compte d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé voyager et rêver avec moi à bord du mythique Orient Express et vivre quelques-unes de ses aventures, côtoyer quelques personnalités hors du commun. Mais lors d'une future émission, je vous raconterai l'histoire d'un autre train mythique, le Transsibérien. Mais vous pouvez m'envoyer un message sur rdvcidfm@gmail.com pour me raconter vos voyages à vous, dans la réalité ou dans l'imaginaire. Cette émission fait suite aux deux rendez-vous contes consacrés tout récemment, je vous le rappelle, au prix Annie Arnaud 2003, organisé par la ville de Saint-Leu-la-Forêt sur le thème des trains bondés à 6h du soir, selon la phrase d'Annie Arnaud imposée aux concurrents adultes. À propos de Saint-Leu, je vous recommande le spectacle littéraire et musical du comédien et chanteur Thierry Leclerc, un spectacle proposé par l'association Point de Suspension le samedi 12 novembre 2022. Le thème, la santé mentale à travers la littérature et la chanson, avec des extraits du procès-verbal de Van Gogh à Arles, du Horla, bien sûr, de Guy de Maupassant, Les Blouses Blanches, une chanson de Michel Rivegauche et Marguerite Monod, chantée par Édith Piaf, mais aussi « Rien ne s'oppose à la nuit » de Delphine Vigan, dont des fragments ont été mis en voix et en scène tout récemment pour la Comédie Française par la comédienne Elsa Lepoivre. Au programme encore de Thierry Leclerc, « Mélatonine », un pastiche par Pascal Fioretto du roman de Michel Houellebecq, « Sérotonine ». Un pastiche dans lequel est mis en scène Marcel Clouelbecq. Rendez-vous compte. Et enfin, un extrait aussi de cette fabuleuse chanson de Michel Polnareff qui s'appelle « Le bal des Lazes ».
Dans le château de Laz.
Spectacle littéraire et musical proposé par l'association Point de Suspension le samedi 12 novembre 2022, salle des arts créatifs à Saint-Leu, en contrebas du marché. Rendez-vous compte, une émission conçue, réalisée et présentée par Didier Delatte sur IDFM. Toutes les émissions sont réécoutables en podcast sur le site d'IDFM, bien sûr. À la semaine prochaine, même heure, sur IDFM.